Alors je vais appeler nos ingénieurs du centre d'exploration du temps. Allô, au centre d'exploration du temps, me recevez-vous?
Allô, allô, le témoin de ce vendredi, Claude Saunier, ou le PSU, vu d'en bas, et de l'Ouest.
Saint-Brieuc, c'est ma ville natale. Je l'ai beaucoup abandonnée, j'y suis beaucoup revenu. C'est Saint-Brieuc. C'était une ville qui avait de l'âme.
Le grand écrivain de Saint-Brieuc, Louis Guillou. Saint-Brieuc, les côtes du Nord, comme on disait alors, plus largement la Bretagne, furent un lieu d'élection pour le petit PSU. Ailleurs, à dire le vrai, il était souvent trop menu pour le scrutin majoritaire façon 5e République. Le PSU, parti socialiste unifié, 1960-1989. C'était une tribu étrange qui juxtaposait des expériences diverses entre lesquelles il pouvait être difficile de trouver d'autres points communs que le désintéressement. Il retrouve un écho aujourd'hui à cause des conditions de son émergence. Il est né en effet d'un gâchis immense, d'une trahison. Le vieux parti socialiste, la SFIO, avait couvert des comportements pendant la guerre d'Algérie que nombre de militants de gauche ne pouvaient accepter. C'est ainsi que s'était constitué le parti, sur un point d'honneur. D'un côté, il y avait une vieille maison, en fin de cycle, la sclérose, aucune comparaison avec aujourd'hui n'est évidemment insinuée. De l'autre, un petit pavillon de chasse où des alchimistes cherchaient des formules de transmutation pour la gauche. Aujourd'hui, on parlerait de recomposition. Certains présentent le PSU comme un parti féministe et écologiste avant la lettre, sans doute un peu, mais il ne faut pas lui attribuer toutes les couleurs alléchantes que fait miroiter la nostalgie. Ce qui demeure, c'est son effort permanent pour tenter de comprendre avant les autres les mutations du travail et de la société. La gauche se targue encore d'avoir seule l'imagination de l'avenir. C'était davantage vrai à la haute époque du PSU qu'aujourd'hui, certainement. Au PSU, disait Michel Rocard, son secrétaire national de 67 à 73, ça cherche dans tous les coins.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Claude Saunier, bonjour.
Bonjour.
On va pas parler de vos 18 ans à la mairie de Saint-Brieuc, de vos 18 ans au Sénat, au Palais du Luxembourg. Je vais vous faire revenir pour reverdir vers les années de votre jeunesse et les années où vous apparteniez à une communauté humaine, la tribu du PSU, qui émeut encore beaucoup de ceux qui sont passés par elle. Saint-Brieuc, on entendait Louis Guillou l'évoquer. Il a publié une chronique extraordinaire de Saint-Brieuc qui s'appelle « Le jeu de patience » où on voit toutes les composantes d'une petite ville, des nobliaux dans leur cercle, un évêque qui est toujours conservateur, un abbé démocrate qui va mourir en camp de concentration, des réfugiés républicains espagnols plus ou moins bien traités et une gauche très ancienne.
Oui, Saint-Brieuc, vieux bastion républicain dans cette terre bretonne qui, à une certaine époque, avait du mal à adhérer aux idées de la République. Une bourgeoisie républicaine, travaillée par les idées de la maçonnerie. Et puis, une gauche ouvrière. Saint-Brieuc, dès le début du siècle, avait quelques leaders, un médecin en particulier, qui a commencé à semer les idées socialistes. Avec une brisure, au moment de la Seconde Guerre mondiale, les républicains, les bourgeois républicains ont été un peu complaisants avec les occupants, et sur la base de la résistance, les socialistes, et Antoine Mazier, etc., Yves Le Bail et d'autres, se sont installés et ont installé le Parti Socialiste et SFIO à l'époque.
Vous êtes un jeune homme précoce, Claude Saunier, vous appartenez à la section SFIO de Saint-Brieuc. Alors on a tendance à voir aujourd'hui, mais ce sont peut-être les yeux un peu déformés par la situation présente, la SFIO des années 50 comme étant un parti en dégénérescence sociologique.
Certainement. Précisons les choses. J'ai eu la chance d'être un enfant de militant. Et donc, à ce titre-là, j'ai participé à la vie de la section, j'ai découvert la vie politique de la section, mais je n'étais pas à SFIO. Une SFIO, une section socialiste qui était la réplique de la vraie société ouvrière laborieuse de la ville, avec des artisans, avec des commerçants, avec évidemment des ouvriers. Ça n'était pas un club de fonctionnaires ou d'enseignants. Je suis moi-même enseignant. C'était vraiment une représentation de la société laborieuse.
Alors, vous étiez tout jeune encore, lycéen, pas encore menacé de devoir servir en Algérie, mais cette échéance...
J'aurais pu, à quelques mois près,
cette échéance approchait.
Ce matin, j'ai reçu cette feuille de route et je dois partir pour 2 ans. Alors le mariage, on en reparlera plus tard. Avec ce qui se passe en Algérie en ce moment, je ne reviendrai pas d'ici longtemps.
Mais je ne pourrai jamais vivre sans toi. Je ne pourrai pas, ne parle pas, j'en mourrai. Je te cacherai et je te garderai, mais mon amour ne me quitte pas.
Alors la perspective de l'insoumission, c'est pas celle des petits groupes qui vont plus tard se fédérer en parti socialiste unifié et auquel appartient le député socialiste de Saint-Brieuc, dont vous avez cité le nom, Antoine Mazier, qui est d'une espèce un peu particulière. Il est antique colonialiste, mais lui veut mener un combat politique et pas un combat qui mène à l'exil ou à la marginalisation comme l'insoumission.
Un souvenir très personnel. J'étais en terminale. Quelques mois plus tard, on pouvait partir les uns et les autres, appelés sur la base de cette trahison de Guy Mollet. On pouvait partir en Algérie.
Le secrétaire général de la SFIO.
Et je me souviens en effet d'initiatives prises avec la complicité ou l'acceptation de l'administration du lycée de l'époque, à des réunions, les terminales là se réunissaient, le prof de philo, Jean Bars, nous réunissait et on parlait de la guerre d'Algérie. Le bouquin de Jules Roy faisait l'objet de nos lectures communes, oui. Alors, en effet, la guerre d'Algérie a marqué, à Saint-Brieuc comme ailleurs, notre génération, a été l'élément déclencheur de la prise de conscience politique.
La première manifestation de masse contre la guerre d'Algérie en octobre 60 se fait sans la SFIO, bien sûr, sans les communistes, sans la CGT. Elle est menée par des élus du PSU comme Tanguy Prigent, qui est sérieusement blessé. C'est un député du Finistère voisin. Vous vous souvenez d'actions, des sittings, des manifestations à Saint-Brieuc ?
Saint-Brieuc, à cette époque-là, était une ville de manifestations. Bon, très souvent. Je n'ai pas le souvenir précis. En plus, mobilisation étudiante, l'UNEF, lieu de rencontre, d'action et de formation de plusieurs générations sur la base, en effet, de l'anticolonialisme. Un souvenir, Rennes, l'UNEF et une soirée passée avec Pierre Mallès-France, qui, à partir de 3 lignes, nous a tenus subjugués pendant...
Parce que le futur PSU va accepter l'adhésion, bien sûr, de Mendès-France, refuser celle de François Mitterrand.
Bien entendu, j'étais tout jeune militant au PSU et gratifié du droit de faire des éditos de temps en temps. Mon premier édito était consacré à François Mitterrand, que je qualifiais de Florentin, pour reprendre... ce qu'on disait à l'époque.
1959, c'est vraiment une terre pionnière, Saint-Brieuc. Antoine Mazier, qui n'est plus député, il a été battu en 58, veut conquérir la mairie et se tient une réunion dont vous avez le souvenir, parce que c'est une formule d'alchimiste qui tente une retransmutation des formules anciennes qui ont vieilli et qui sont prêtes à périr de la gauche.
C'était le deuxième tour des élections municipales. Il y avait une recomposition des listes. Et à l'inspiration et sous la présidence de Louis Guillou, que nous venons d'entendre, à la Maison du Peuple, autre symbole pour Saint-Brieuc, étaient réunis Antoine Mazier, représentant les socialistes laïcs, Édouard Prigent, représentant le Parti communiste, et le docteur Rabel, représentant les chrétiens de gauche, réunis les uns et les autres, en effet, par l'anticolonialisme et la volonté de s'unir aussi pour faire gagner la gauche.
Et cette liste a failli l'emporter en 59.
Cette liste l'aurait emporté s'il n'y avait pas eu la lecture le matin même de l'élection, la lecture d'un mandement de l'évêque disant qu'il interdisait aux chrétiens de voter sur une liste sur laquelle il y avait des communistes. Il a fallu quand même 3 ans à la justice administrative pour considérer qu'en effet il y avait là un motif d'invalidation. Et la décision du deuxième tour de l'invalidation n'a été connue qu'en 1962, et l'organisation de l'élection s'est faite en septembre.
Et c'est comme ça qu'Antoine Mazier devient maire
de Saint-Brieuc. À la surprise générale.
Il le reste très peu de temps parce qu'il meurt en 1964. Le voici évoqué par quelqu'un que chacun va reconnaître.
Antoine Mazier, qui a ici construit la puissance dont vous gérez à la fois l'héritage et le rayonnement et la croissance, Antoine a formé autour de lui beaucoup d'hommes. Et l'exemple de rectitude, de courage, d'impavidité aussi qu'il a toujours su donner, probablement à cause aussi de cet équilibre de couple fantastique qu'il avait avec Jeannette, cet exemple-là, il a été formateur pour tous ceux qui suivaient, et dont j'étais.
Moi, j'ai été formé par Antoine Mazier, et j'étais dans l'intimité familiale d'Antoine Mazier et de Jeannette. Et donc, je peux dire en effet que sa vision de l'action politique, sa volonté de rompre lorsque l'essentiel était menacé, son courage, quoi, hein, bon, ça m'a formé, inspiré.
Comme dit Manuel Valls, cette gauche passéiste qui s'accroche aux valeurs.
Eh oui.
Si vous nous parliez de Jeannette et des autres femmes au PSU, parce qu'on dit aujourd'hui le PSU c'était un parti quasi féministe.
C'est quand même exagéré. On est dans la société des années 60-70, la place des femmes était encore à faire. Mais Jeannette, aux côtés de son mari, a été vraiment l'inspiratrice, le soutien. Et en plus, elle était vraiment très engagée. C'est un souvenir très personnel. La première fois que j'ai fait une réunion de section, animé une réunion de section, c'était en Bretagne intérieure, à Corlay. Et Jeannette m'avait demandé de l'accompagner. Et donc j'avais une petite vingtaine d'années, un gamin quoi. Hein. Et Jeannette, à la fin de cette réunion, dit aux camarades qui étaient là, ce soir je pense qu'un militant est né. Voilà, bon, c'est des
souvenirs. Mais souvent ce sont les femmes qui disent à leurs époux, soyez radicaux, enfin au sens premier du mot radical.
Oui, tout à fait. Jeannette n'était pas, comme souvent les femmes, pour la recherche de compromis. Elle était très attachée culturellement. Elle venait de la gauche radicale républicaine et elle était sur une position, des positions très tranchées, très fortes. Elle l'a soutenue en tout cas.
Saint-Brieuc était quasi jumelé à Grenoble où va être élu au nom du PSU Pierre Mendès France en 1967 et où s'est tenu un très grand moment de rencontre en 1966 où on a débattu de beaucoup de réformes modernisatrices et d'une en particulier qui vous tient très à cœur, Claude Saunier.
Oui, vous avez évoqué dans le chapeau le rôle de laboratoire d'idées. Bon, c'est clair, au cours de cette période, il y avait des intellectuels, il y a eu Pierre Naville, il y a eu Serge Mallet, il y a eu des gens qui ont apporté à cette génération nouvelle de militants les fondamentaux quoi, permettant de décrypter la société.
Comme dit Christiane Taubira, d'abord comprendre et lire.
Tout
et après,
fait,
on peut militer.
Et après, on milite. Et c'est vrai que cette époque-là a été marquée pour la gauche, qui était quand même dans une situation globale d'assez grandes difficultés, l'occasion pour le PSU d'apporter une contribution déterminante à la reconstruction de la gauche au travers d'initiatives comme celle de Grenoble, relayée ensuite sur le terrain à Saint-Brieuc par un colloque consacré à la décolonisation de la Bretagne, de la décolonisation de la France.
De toutes les provinces.
De toutes les provinces, pour reprendre l'expression du rapport de Michel Rocard.
Ce rapport de Michel Rocard, quand vous avez préparé l'agrégation d'histoire, il y a une épreuve où on peut demander à la bibliothèque de la Sorbonne les bouquins pour la préparer.
C'est très anecdotique. J'avais eu la chance d'avoir comme sujet à traiter les préfets. J'étais ravi de tout. Et puis, j'ai perdu mes moyens et je n'ai pas retrouvé la capacité de construire une leçon sur ce que m'avait appris Michel Rocard.
Et il s'agissait de promouvoir la région.
Pour l'essentiel, de théoriser sur les fondamentaux de ce qui va être plus tard la décentralisation. Repris dans le programme socialiste, dans le programme commun et appliqué par Gaston Defferre. La réforme de la décentralisation, elle est bien née en Bretagne, à Saint-Brieuc.
Et puis aussi à Grenoble, avec le maire de Grenoble qui animait les GAM, les groupes d'action municipaux. Eh bien, voici ici pour évoquer la période d'insubordination ouvrière qui a suivi mai 68. Mai 68 où le PSU a joué un grand rôle. Une chanson collective interprétée par des grévistes en Belgique, à Boufiou. C'est le GAM, mais ça veut dire là, groupe d'action musicale. À l'heure de l'IP, l'IP c'est 1973, le leader CFDT de l'IP, Charles Piaget, était membre du PSU.
L'IP, c'est l'heure. L'IP Notixki.
Autre deuxième top 13h, LIP, c'est l'heure.
Tourne le grève, monte la grève, vos yeux ne veulent pas s'arrêter. À l'heure de LIP, les ouvriers ne verront plus les pots cassés. À vos yeux comme partout ailleurs, on veut avoir droit à l'emploi. Partout ailleurs comme à vos yeux, battons-nous aussi pour ce droit. Le comité s'organise, tout le monde discute à l'Assemblée. Comité s'organise, tout le monde discute à l'Assemblée, et tous les ouvriers décident par le patron pour diriger. À Boufioca, partout ailleurs, on veut avoir ou pas l'emploi. Partout ailleurs, comme à Boufioca, battons-nous aussi pour ce droit.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Et aujourd'hui, une expérience intéressante à considérer aujourd'hui, le PSU vu d'en bas avec Claude Saunier. LIP, on pourrait ajouter Bouffiou, mais dès avant LIP, Saint-Brieuc avec la grève de 72 au juin français. Alors c'est dans la périphérie de Saint-Brieuc. Qu'est-ce que c'est? C'est une usine chimique?
Oui, c'est une usine de caoutchouc spécialisée dans l'élaboration de micro-joints. Le problème, c'est que cette usine a été faite sur un principe. On peut faire travailler les Bretons à un tarif bien inférieur à celui pratiqué dans les autres usines du groupe, par exemple en région parisienne.
Ce que les OS, et parmi eux, vous voyez spécialisés, il faut le dire aujourd'hui, beaucoup de femmes découvrent, et une grève a lieu en 72 qui va durer 3 mois. Avec occupation, assemblée, comité, comme dans la chanson qu'on vient d'entendre, et bien sûr le PSU aux aguets. Cette année-là, à armes égales, la télévision oppose deux débatteurs, le vieux grognard Alexandre Sanguinetti, et puis le jeune leader du PSU, Michel Rocard. Et cette émission permettait à chacun des deux interlocuteurs de réaliser un court film en introduction. Voici celui de Michel Rocard.
Les syndicats demandent une augmentation horaire de 70 centimes et un 13e mois pour les 1000 ouvriers, en majorité des femmes.
Combien y a-t-il de femmes qui travaillent dans cette usine?
65%.
Et quel est le salaire moyen d'une femme qui travaille au joint français?
80, 85 les plus payés, mais encore...
850 francs par mois?
Oui, à 47 heures de travail.
À 47 heures de travail par semaine.
La grève du joint français a commencé par une occupation de l'usine. Longtemps, les travailleurs ont cherché un interlocuteur avec qui discuter. Quand ils en ont trouvé un, ils ont voulu aller jusqu'au bout de leur problème. En face, ils appellent cela une séquestration. Écoutez ces deux ouvrières du joint français. Quand elles vous parlaient, elles ne savaient pas encore qu'elles gagneraient. Mais elles savaient déjà qu'elles avaient changé. Elles avaient pris conscience.
Tu étais antigréviste au début, parce que... En 68, je connaissais pas de rien sur les grèves. C'était la première fois que je travaillais. Et puis, comme on est 9 enfants à la maison, ben je ne pouvais pas me permettre de faire grève pendant 5 semaines comme on l'a fait. Puis maintenant, les temps ont changé, quoi.
Qu'est-ce qui a changé?
Ben, au bout de 5 ans, au bout de 4 ans et demi, j'ai appris quand même ce que c'était que la vie d'usine, quoi.
Et qu'est-ce que c'est la vie d'usine?
C'est un boulot dégueulasse. C'est le bagne. Et vous, votre avenir à vous, vous le voyez comment? Si on ne change pas de travail, je crois que je ne pourrais pas rester là. Ça, c'est plus possible maintenant. Je ne peux plus durer. Je crois qu'on a pris de l'autorité depuis qu'on est en grève. Parce que avant, ça ne serait pas permis de dire des choses comme ça. Mais maintenant, je crois que je ne pourrais plus maintenant rester sur une machine, je suis certaine.
Contre l'autorité, on a pris de l'autorité. On a une maxime pour le PSU.
Tout à fait. Une illustration de la rudesse de cette société des années 60-70. Une classe ouvrière méprisée, doublement méprisée. Méprisée parce que classe ouvrière et méprisée parce que classe ouvrière bretonne. Donc on pouvait exploiter, etc. Un sursaut Un sursaut qui a concerné les paysans. Il y a un sursaut, une mobilisation pour soutenir ces ouvriers victimes d'injustice. Et puis, au bout de plusieurs semaines, un conflit exceptionnellement long, des manifestations à répétition et réunissant des milliers et des milliers de personnes, en effet, la solution. Et puis, le message a été entendu. Depuis, j'ai été en situation de responsabilité, maire de Saint-Brieuc, et je suis employé à tisser des liens normaux entre une municipalité normale et une entreprise ayant un comportement normal. Et donc aujourd'hui, le joint français qui ne s'appelle plus le joint français est une entreprise qui continue à se développer, à prospérer normalement.
Puisqu'on parle d'aujourd'hui, le mérite du PSU, c'est de nous faire entendre 40 ans après une parole ouvrière qui est devenue assez rare dans les médias de 2016. Mais il ne faut pas entendre les ouvriers, c'est ça qu'on se dit au PSU, notamment autour de Serge Mallet, dont vous citiez le nom, comme devant être nécessairement inclus dans une hiérarchie avec des syndicats centralisés. Au PSU, on insistait sur les caractères inédits des nouveaux travailleurs. C'est comme si on percevait déjà les manifestations d'émancipation individuelle qui se sont produites un peu partout. Reste après à articuler à une émancipation collective.
Bien entendu, on évoquait le rôle de laboratoire, le rôle anticipateur de la réflexion du PSU. C'est quelque chose qui nous manque cruellement aujourd'hui. Cette vision de sociologue, d'historien, qui pourrait nous dire la société dans laquelle on est, concrètement, la société, les conditions de travail objectives, de production objectives, ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Comment on les analyse? Quelles sont les aliénations nouvelles? Quelles sont les oppressions? Et quelles sont les perspectives que ça ouvre? Donner du sens, c'est ce qui ferait le plus grand bien, me semble-t-il, à notre société aujourd'hui. Ça avait été fait par le PSU au travers de gens comme Pierre Naville et Serge Mallet.
De nombreux paysans, vous l'avez dit, sont venus ravitailler à grand renfort de tracteurs et de remorques les ouvriers du joint français. Un grand leader paysan de l'époque, c'est Bernard Lambert, qui est proche du PSU, qui n'est pas éloigné des Côtes du Nord, puisqu'il a été député un moment de Loire-Atlantique. Alors le voilà avec son camarade Potiron, qui explique les divisions qui travaillent le monde paysan.
Tous les agriculteurs ne sont pas sur la même position. Il y a des agriculteurs qui emploient de la main-d'œuvre salariée en grande quantité, qui ont de grandes exploitations, qui travaillent peu eux-mêmes, et qui sont...
Mais là, je t'arrête tout de suite. Si pour toi, ça, c'est des agriculteurs, c'est peut-être des agriculteurs, comme tu dis, mais ce n'est pas des paysans.
C'est des capitalistes.
Ah ben, d'accord.
Je crois qu'il y a... Alors, il y a ensuite, je pense, des agriculteurs comme ceux de nos régions qui ont cherché à trouver une activité parce qu'ils n'avaient pas d'emploi dans l'industrie, parce que leur profession traditionnelle rapportait peu. Ils ont investi, se sont endettés jusqu'au cou. Et à partir du moment où ils dépendent des industries agricoles et alimentaires. Et puis enfin, il y a les agriculteurs qui n'ont plus d'espoir, qui, voyant qu'il n'y a pas de débouché, n'attendent plus qu'une chose, la retraite, en disant les enfants vont partir, ils deviendront facteurs, gendarmes, ouvriers, ils prendront leur musette, ils iront travailler à Paris, ailleurs.
Un paysan, c'est une contradiction permanente. C'est en même temps un prolétaire et un patron. Et c'est souvent un propriétaire. Enfin, moi, personnellement, je ne me bats pas pour défendre ma condition de paysan, mais je me battrai pour défendre ma condition de travailleur. Et même si demain je ne suis plus agriculteur, pour une cause quelconque, ce que je ne souhaite pas, parce que j'aime vivre à la terre, eh bien, je pense que je me battrai encore, même si je ne suis plus paysan, mais je me battrai pour défendre ma condition de travailleur, qui pour moi est la chose essentielle.
Un reportage de 1970, il me semble qu'on entend en arrière-fond des bêtes qui sont très présentes au PSU. Avec Bernard Lambert qui va fonder les paysans travailleurs, on défend plus le dogme de la petite exploitation familiale qui, selon la FNSEA, deviendrait grande et assurerait l'avenir. C'est pas comme ça que les choses se passeront, dit Serge Mallet, par exemple.
Ce qui est fabuleux, c'est l'actualité de cet échange. Il ne faut pas opposer, en effet, les différents types d'agriculture. Aujourd'hui, l'agriculture, globalement, est confrontée à de grands enjeux terrifiants. La mondialisation. L'Amérique, les États-Unis, le Brésil sont capables de nourrir la planète tout entière, au détriment donc au prix de la disparition de catégories sociales. Donc La mondialisation, c'est la première enjeu. L'environnement. L'augmentation de la population. On sera bientôt 9 milliards. Il faudra donner à manger à ces gens. En préservant l'environnement. En donnant à manger une alimentation qui assure la santé. C'est une grande révolution qu'il faut imaginer. Et des personnages comme Bernard Lambert, qui est à l'origine de la coopérative d'Anceny, qui est maintenant devenue l'une des principales coopératives en France, et qui est fondée sur une vision de l'agriculture extrêmement moderne. C'est l'agriculture écologiquement intensive. Produire, donner à manger en respectant l'environnement.
PSU presque féministe, PSU presque écologiste, PSU trop petit face à l'ogre socialiste, parce que la vieille maison de la SFIO a fini par tomber, le nouveau parti socialiste s'est créé, François Mitterrand l'a pris en main, congrès d'Épinay 1971, et le PSU se dit, bah, il va peut-être falloir aller vers l'ogre, à condition que nous soyons le sel de la soupe qu'il va manger. Vous aviez précédé le mouvement, et puis dès 1973, vous avez constaté que le PS nouveau, bah, commençait à l'emporter, même à Saint-Brieuc, la Mecque du PSU.
Oui, tout à fait. À vrai dire, j'ai adhéré au PSU parce qu'il exprimait un refus, une protestation contre la guerre d'Algérie, etc. Mais j'ai adhéré aussi au PSU parce que c'était le seul lieu où on développait la thèse de l'union de la gauche. Il n'y a pas de solution sans cette capacité de rencontre des hommes et des femmes de gauche. Et le PSU a été porteur de ce grand projet-là. Bien. Et il l'a abandonné à l'occasion d'un débat en 67. Or, pendant que le PSU travaillait, on a évoqué ce qu'il a pu apporter, d'autres initiatives étaient prises qui ont conduit progressivement à l'émergence d'une nouvelle force, la FGDS, il y a eu des ratés, des hauts débats, etc. Mais avec une couverture nationale qui, en effet, a submergé ce que le PSU n'avait pas réussi à faire, c'est-à-dire se donner une implantation territoriale beaucoup plus massive.
74, assise du socialisme, avec d'autres groupes, 2200 militants du PSU derrière Michel Rocard rejoignent François Mitterrand. Le PSU va continuer jusqu'en 1989. On se souvient qu'il a eu un autre candidat que Rocard à la présidentielle, une candidate, Huguette Bouchardeau. Et puis sur notre site, vous verrez des références aux livres de Guy Philippon et de Bernard Ravenel qui vont jusqu'au bout de l'histoire du PSU, jusqu'à son autodissolution. Il est né dans une fin de cycle. Nous sommes aujourd'hui dans une fin de cycle.
J'ai eu l'occasion de connaître cette première fin de cycle, fin de la SFIO, etc. Et hélas, aujourd'hui, après 60 années d'engagement militant, je constate qu'on est à une deuxième, à une nouvelle fin de cycle. C'est la vie politique, c'est la vie tout court. Je ne vais pas évoquer ici tous les signaux si forts, si évidents de la crise qui frappe la gauche. La question qui se pose, c'est... Est-ce qu'on peut, quels sont les moyens que la gauche peut se donner de se reconstruire? Je crois qu'il faudra du temps, parce qu'il a fallu du temps pour passer de 58 à 81 et gagner. Il faut du temps, mais les élections peuvent être aussi un accélérateur de prise de conscience et de débat. J'espère que nous sortirons de cette période pour la gauche, aussi bien que possible, mais surtout sur une trajectoire qui lui permette de reprendre la place qui est la sienne, c'est-à-dire d'instrument d'espoir et de progrès.
Merci de nous avoir aidé à faire reverdir le PSU, Claude Saunier. Cette émission était préparée par Franck Olivard, Frédéric Martin, Ilinka Negulesco, réalisée par Valérie Estaraille, avec à la technique Florent Beauvalet.